Le 29 juillet 1948, Big Ben sonne la quatrième heure de l'après-midi, moment où s'ouvrent les 14e Olympiades, premiers Jeux Olympiques d'après-guerre, les Jeux de la paix. On a confié à Londres, ville qui a résisté aux raids incessants des Stukas allemands, cité martyre du Blitz, de relancer l'esprit olympique et d'effacer des mémoires les Jeux de Berlin, organisés en 1936, par un Reich nazi qui devait durer 1000 ans. Eh bien, 12 ans plus tard, et 60 millions de morts, les Jeux Olympiques reviennent au cœur d'un vieux continent meurtri, convalescent, mais résolument tourné vers l'avenir. Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 auraient dû s'ouvrir ce week-end au Japon, eh bien voici l'histoire compensatoire. Sur l'affiche officielle de ces Jeux Olympiques de Londres, édition 1948, se trouve en majesté le discobol, icône de la statuaire grecque. La présence de ce lanceur de disques aux formes anatomiques parfaites vient rappeler au monde que l'héritage antique appartient à l'humanisme européen et non pas aux régimes fascistes qui ont été si prompts à se réclamer de cette ascendance des origines. Si les intentions morales de cette Olympiade sont nobles, le contexte, lui, est très particulier. L'Europe est en ruine, les populations souffrent du rationnement, les athlètes sont logés dans des casernes militaires et la presse anglaise déplore qu'on ait imposé un tel défi à cette ville dont les priorités étaient ailleurs, même si les délégations sportives sont priées d'apporter leur propre nourriture. Les Argentins viennent avec leur viande, les Italiens avec leurs pâtes et les Français avec leur vin, du mouton Rothschild qui plus est, car à l'époque, on considérait que le vin rouge avait des vertus dans le régime alimentaire du sportif tricolore. Quoi qu'il en soit, à la fin juillet, tout est prêt pour ces Jeux Olympiques qui, pour la première fois, sont télévisés.
À Londres, en présence de Leur Majesté, le roi et la reine d'Angleterre, 82 000 spectateurs et 6 000 athlètes venus de tous les points du monde assistent à l'inauguration des 14e Jeux Olympiques de l'ère moderne. La Grèce, qui célébra les premières Olympiades, défile la première, en tête des 59 nations engagées. Puis, l'ordre alphabétique étant respecté, c'est l'Argentine et son importante délégation. Ensuite, voici la Belgique. Et voici la France, qui, très applaudie, défile dans un ordre impeccable. Mais le défilé continue, et c'est maintenant l'imposante cohorte des 400 représentants des États-Unis. Et c'est l'Anglais John Mark, le dernier porteur du flambeau venu d'Olympie, qui entre dans le stade. La minute est grandiose. La flamme qui a filé jour et nuit à travers toute l'Europe connaît son dernier relais, son dernier tour. Les athlètes courent pour applaudir ce camarade qui, avec cette flamme, semble leur apporter le droit de lutter et celui de vaincre. Et c'est la montée triomphale vers l'urne dont la flamme va briller tous les jours pendant tous les Jeux de Londres.
Ce jour-là, à Londres, aucune délégation allemande ou japonaise. Punie, les deux pays agresseurs sont interdits de Jeux Olympiques. Quant à l'URSS, n'étant pas encore affiliée aux instances olympiques, la Russie de Staline est excusée. Dans la délégation française, une jeune femme, née le 23 décembre 1922, dans le Pas-de-Calais. Elle a donc 26 ans, elle s'appelle Micheline Ostermeyer, père alsacien, mère bretonne, métisse à la française, elle est championne de France en titre du lancer de poids. Mais, depuis quelques semaines, elle a découvert une nouvelle discipline, le lancer de disque, comme l'athlète antique sur l'affiche. Voilà un mois à peine qu'elle s'y prépare et elle a réussi à se qualifier pour l'épreuve olympique. C'est la toute première finale de ces Jeux de Londres.
La flamme brûle. Le docteur Finlay a prêté serment. Les Jeux Olympiques de 1948 sont commencés. Première finale. Lancement du disque féminin. Après l'italienne Gordiale Gentile, la française Madame Mazéas réussit un beau jet qui va lui permettre de prendre la troisième place. Et voici voici Micheline Ostermeyer, qui bat le record de France et enlève le titre olympique. Première victoire française, premier sourire.
À la surprise générale, donc, Micheline Ostermeyer décroche la première médaille d'or de cette Olympiade londonienne. C'est aussi la toute première Française à devenir championne olympique dans une discipline d'athlétisme. Une prouesse hors norme pour cette jeune femme. Elle-même ahurie par sa performance, elle en a perdu le sommeil et elle s'inquiète parce qu'arrive l'épreuve de sa spécialité, le lancer de poids, où elle espère bien monter à nouveau sur la première marche du podium.
Le lancement du poids féminin après l'essai de l'italienne Mademoiselle Piccini, voici celui de la Française Veste. Et voici la championne de France, Micheline Ostermeyer. Avec un jet de 13,75 m, Micheline Ostermeyer est proclamée championne olympique et pour la seconde fois fait hisser au son de la Marseillaise le pavillon français au grand mât olympique.
Double championne olympique en 3 jours. La presse internationale commence à se pencher sur la vie de cette jeune Française hors norme. D'autant plus que le soir de cette seconde victoire, tenez-vous bien, Micheline Ostermeyer est attendue au Royal Albert Hall pour un récital au piano de Beethoven. Car sachez que Micheline Ostermeyer est avant tout une pianiste prodige tombée par hasard dans le sport. Ce soir-là, les spectateurs londoniens dans la salle diront de cette jeune athlète française, virtuose, qu'elle incarne à merveille ces jeux de la paix retrouvée. En choisissant, qui plus est, d'interpréter l'œuvre de Beethoven, compositeur allemand, comme un pied de nez à Hitler et à sa clique de tueurs sociopathes. Figurez-vous que le lendemain, Micheline Ostermeyer a décroché une 3e médaille. De bronze, celle-ci, dans l'épreuve du saut en hauteur, c'est hallucinant. La piste et le piano, le plaisir et l'effort, allégorie soudaine d'une jeunesse européenne qui veut dévorer la vie. Enfant de France, aurait dit le général, rêvez tous de devenir des Ostermeyer. Micheline Ostermeyer est née en métropole, mais elle a grandi en Tunisie, où elle a appris le solfège sur le Steinway de sa mère. Son talent est tel qu'elle débarque à Paris à l'âge de 13 ans pour intégrer le Conservatoire National de Musique dans la classe de Lazare Lévy, compositeur et pédagogue extraordinaire. 4 ans plus tard, la guerre éclate. Micheline rentre au Maghreb, se réfugie dans sa famille, où son père lui fait découvrir le basket et l'athlétisme. 5 heures de piano par jour, 5 heures de sport par semaine. Elle impressionne par ses capacités et en 1941, elle joue du piano tous les soirs sur les ondes de Radio Tunis, tout en décrochant 5 titres d'athlétisme au championnat de Tunisie. En 1945, elle revient à Paname, où elle retrouve avec grande émotion Lazare Lévy, juif rescapé des rafles, dont l'aîné néanmoins est mort en déportation à Auschwitz. Lazare Lévy a mis tout son talent pour aider Micheline Ostermeyer à décrocher un premier prix au Conservatoire de musique en 1946. Un apprentissage complet, où les enseignements de la musique se mêlent à la geste sportive. Un curieux entrelacs.
Vous étiez une grande, très grande pianiste. Vous êtes toujours, d'ailleurs, mais à l'époque, vous donniez des concerts un petit peu partout en même temps que le sport.
J'ai fait de nombreuses heures de piano pendant ma jeunesse. J'en faisais même 6 heures quand j'avais 12 ans. Et je suppose que ça m'a tout de même développé les avant-bras, les biceps, et que ça m'a servi pour lancer le poids. En dehors de ça, je suppose aussi que l'apprentissage de gestes aussi compliqués que ceux d'un pianiste m'a facilité les apprentissages rapides et que c'est peut-être pour ça que j'ai lancé le disque comme ça, abruptement et avec succès.
Sa carrière sportive s'est arrêtée en 1951 avec un palmarès de haute volée. 3 médailles olympiques donc, décrochées à ces Jeux olympiques de Londres en 1948, auxquelles se sont ajoutées 1 médaille d'argent au championnat d'Europe et 12 titres de championne de France. Quant au piano, elle en a joué toute sa vie. Une vie au destin cabossé par la suite, avec un époux emporté trop tôt par un cancer foudroyant en 1956 et un fils assassiné en 1990. Micheline Ostermeyer s'est réfugiée dans la musique jusqu'à la toute fin. Son dernier récital a eu lieu à Montpellier à l'automne 2000, quelques mois seulement avant sa mort, en octobre 2001, à l'âge de 78 ans. Elle a dû cependant attendre 1992 pour devenir chevalière de la Légion d'honneur. Une décoration républicaine tardive, bien tardive, au regard de son parcours extraordinaire. In memoriam, Micheline Ostermeyer, 1922-2001, une certaine idée de la France au cœur de l'Europe. Thank you.